France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Les beaux jours reviennent et vous avez peut-être envie de pratiquer un sport ou une activité physique régulière. Oui, mais voilà, les bonnes intentions et les vœux pieux, vous avez du mal à vous y mettre pour mille et une raisons. Et ce matin, nous verrons quels sont les principaux freins à la pratique sportive: santé fragile, difficulté à socialiser, surpoids ou obésité, peur du regard des autres, contraintes professionnelles, scolaires et familiales, coût de l'équipement ou de l'abonnement à une salle, ou encore désintérêt poli pour le sport. Alors nous verrons comment se motiver et puis nous reviendrons sur les bienfaits avérés de la pratique sportive et les méfaits de la sédentarité sur notre santé et notre bien-être. Et vous racontez-nous votre difficulté à faire du sport et comment vous vous y êtes remis. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Une émission en partenariat avec le site Doctissimo. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse, allez Rébéi.
Et voilà une bonne résolution de fête.
On l'a dit, on l'a fait, cette année on s'inscrit au sport.
Eh oui, parce que les résolutions, hein, on en parle, mademoiselle, mais l'important c'est de s'y tenir. Des fois c'est un engagement.
Bien sûr.
On a tout pour notre inscription, voilà, vous pouvez prendre les trucs.
Eh bien c'est parfait, vous pouvez commencer votre première séance.
Ma première quoi?
Votre première séance de sport directement, c'est votre résolution, non?
Ah, notre résolution c'était de s'inscrire au sport, pas d'en faire, mademoiselle.
Et vous avez sans doute reconnu Catherine et Liliane. Bonjour professeur Martine Duclos, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes l'une des solides expertes de cette émission. Vous êtes endocrinologue, médecin du sport et physiologiste, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Vous êtes présidente de l'ONAPS, l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. Bonjour Jean-Marc Seine, docteur Jean-Marc Seine.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin du sport, ancien médecin de l'équipe nationale de France de judo. Là, vous vous occupez de MMA régulièrement. C'est quoi votre rôle exact?
Ah ben, je suis médecin de la fédération. Absolument, ce nouveau sport qui vient d'arriver et dont on parle beaucoup.
Et vous êtes chroniqueur santé dans l'émission Bonjour, la matinale de TF1, et vous aviez publié chez In Press Le sport, je me lance. Bonjour Quentin Rocht.
Bonjour Ali.
Vous êtes kiné spécialisé dans le sport et expert en course à pied. Votre compte Instagram est très suivi et vous publiez chez Larousse Courir, le guide pour tous ceux qui n'ont jamais couru de leur vie. Et bonjour docteur Gérald Kirzek.
Bonjour.
Urgentiste, directeur médical du site Doctissimo. Vous êtes également chroniqueur à Télématin et chez nos confrères d'ici. Alors, professeur Martine Duclos, pouvez-vous nous dresser un bref tableau de l'activité physique et sportive dans notre pays? Sommes-nous de bons élèves en Europe, professeur Duclos?
On va dire qu'on se situe dans la moyenne. On n'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est l'Europe du Nord, où c'est vraiment inscrit dans leur culture de faire de l'activité physique et sportive. Les moins bons, c'est dans l'Europe du Sud, les Italiens, les Espagnols. Et nous, on est vraiment dans le ventre mou, au milieu.
Pourquoi on est dans le ventre mou? Pourquoi c'est pas dans notre culture, Martine Duclos?
Ah bah parce que nous, la culture, on l'a surtout, la culture des comportements en bonne santé, on l'a orientée vers la nutrition. Donc en termes de nutrition, on a beaucoup d'informations, on a une culture information, on a une culture nutrition. Par contre, l'activité physique, on voit bien ce qui se passe à l'école. C'est vraiment ce qu'on met en dernier, c'est le bouche-trou, ou c'est éventuellement l'activité qui saute quand on manque d'heures de cours, c'est l'activité qui est la moins reconnue. Donc voilà, c'est pas du tout dans notre culture malheureusement.
Et professeur Duclos, l'activité sportive, est-ce la même chose que l'activité physique?
Non, alors, en fait l'activité sportive c'est qu'un des éléments de l'activité physique. L'activité physique c'est beaucoup plus vaste. En fait c'est dès que vous vous levez, que vous commencez à bouger, vous faites de l'activité physique. Ça veut dire que vous pouvez en faire par exemple quand vous utilisez des déplacements actifs pour venir à France Inter et avoir la chance de vous voir. Si vous y allez à pied ou en vélo, vous faites de l'activité physique. Par contre, si vous venez en voiture, c'est raté. Par contre, le sport, la différence, c'est que c'est une activité qui est beaucoup plus structurée, avec il faut répondre à des règles. Voilà, donc typiquement, le football, le tennis. Mais par contre, vous pouvez jouer avec un ballon, et là, vous ne ferez pas du sport, mais vous ferez de l'activité physique.
Pouvez-vous nous dire ce qu'est exactement la sédentarité d'un point de vue médical? C'est quoi exactement? Parce qu'on peut faire du sport et paradoxalement être sédentaire.
Et oui, on peut être sportif et très sédentaire. La sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis entre le moment où on se réveille le matin et le moment où on se couche le soir. Et si vous calculez, tous les temps passés assis, hein, au travail, dans les transports et puis dans les loisirs, eh bien, en France, on arrive pour les adultes à peu près 10 à 12 heures passées assis par jour. C'est effrayant. À côté de ça, on vous demande à peu près de faire 30 minutes d'activité physique tous les jours. Et on n'y arrive pas vraiment. Et donc, la sédentarité, c'est ce qui nous tue, en fait. Hein. Alors, c'est vrai que c'est difficile de lutter contre la sédentarité parce que tous les progrès font qu'on a une vie de plus en plus mécanisée et de plus en plus numérique. On peut même faire du sport à domicile. Alors, j'aime pas du tout ça, hein, mais ce qu'on appelle le e-sport, c'est pas du sport. Mais alors, en gros, vous êtes sur un fauteuil. Alors certes, vous faites travailler votre cœur et votre stress et votre système de réaction au stress, mais c'est horrible parce que vous êtes assis. Donc vraiment, ce temps passé assis, eh bien en fait, c'est l'inverse sur votre santé des effets de l'activité physique.
Et vous martelez une règle essentielle, professeur Martine Duclos, ne pas rester assis 6 à 7 heures par jour en temps cumulé.
Non, il faut se lever en fait régulièrement toutes les heures et voire toutes les 30 minutes. Mais en gros, et là, attention.
Je suis debout, professeur Duclos.
C'est très bien.
Docteur Kirzak, rasseyez-vous.
Non, restez debout, c'est très bien. donc, il faut se lever toutes les heures. Enfin, si possible, alors, je n'aime pas le il faut, c'est vous oubliez, il faut essayer de vous lever toutes les heures et pendant 1 à 3 minutes, vous bougez. Alors, vous pouvez simplement bouger vos jambes, n'importe quelle intensité est bonne, vous faites tout ce que vous voulez, mais il faut faire bouger ses jambes pendant quelques minutes.
Vous êtes d'accord, docteur Jean-Marc Sen, avec ce que nous dit le professeur Duclos, que nos sociétés sécrètent de la sédentarité, c'est-à-dire que les individus ne sont pas les seuls responsables de cette sédentarité?
Oui, alors certainement, parce que, alors bien sûr, d'accord sur les définitions qui viennent d'être données et qui sont aujourd'hui complètement reconnues, et effectivement, les individus, en fait, sont dans un contexte. Une ville, la façon, parce que dire qu'on va bouger, qu'on va faire du vélo, qu'on va marcher, faut-il encore que les villes, les environnements soient organisés pour cela? Alors il y avait même, c'était un urbaniste suisse qui utilisait ce terme de réenchanter les villes pour faire en sorte que l'on puisse effectivement se déplacer. Ça, c'est un élément qui est absolument essentiel. Autrement dit, l'environnement détermine aussi le comportement des individus.
Docteur Kirzak.
L'environnement et le comportement, parce que même si l'environnement n'est pas propice, qu'on soit en ville ou à la campagne, le fait de juste penser, je ne prends pas ma voiture pour aller chercher le pain, par exemple, ou je descends 1 ou 2 stations de métro, pour ceux qui sont dans des villes avec des métros, ça c'est du comportement. Alors c'est sûr que c'est moins agréable de marcher dans une ville avec des voitures et respirer des pots d'échappement, mais on peut, en changeant ses petites habitudes, je le dis parce que je le fais, le fait de se lever aussi, on en rigolait, mais faire des pauses comme ça, on a ce réflexe-là quand on est en voiture et qu'on conduit et toutes les 2 heures on fait des pauses, on n'a pas ce réflexe-là par exemple au travail, alors qu'on devrait le faire. On n'a pas ce réflexe de travailler debout par exemple, même s'il y a un certain nombre d'outils, d'aménagement de bureau qui permettent de le faire. Bouger des jambes, c'est fondamental. Dans un avion, c'est ce qu'on vous dit pour éviter les phlébites, bah, c'est un peu la même chose. Il faudrait bouger, mettre en mouvement ses muscles.
Quand un rock, c'est pas toujours évident de courir dans une ville qui n'est pas adapté à la course à pied.
Oui, tout à fait. En fait, déjà, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a la ville, il y a les gens, il y a la pollution, mais il y a aussi les conditions météorologiques. Et en fait, du coup, déjà, d'être dans une ville où il fait souvent mauvais temps, où il fait gris, c'est, ça peut miner le moral. Et ça peut être, du coup, difficile de l'intégrer dans une routine justement d'activité physique. Donc ouais, c'est ça.
Que répondez-vous? Tiens, j'ai reçu ce message de la chroniqueuse au Monde et à Quotidien sur TMC, Maya Mazorette, qui me dit qu'elle n'arrive pas à aimer ça, le sport, et que les 15 premières minutes sont horribles. J'ai l'impression, je la cite, que mon corps est coulé dans du béton et avec l'âge, la durée d'inconfort augmente. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Maya Mazorette qui vraiment, d'abord, n'aime pas ça et puis qui a l'impression d'avoir son corps en cacahuète pendant les 15 premières minutes? Alors, voire plus de sport.
C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et effectivement, le fait, lorsqu'on est on a une insuffisance d'activité physique, on est sédentaire, les premiers mouvements vont toujours être difficiles. Et c'est vrai qu'il y a une phase qu'il faut passer, qu'il faut arriver à passer. Ça, malheureusement, c'est dur de faire différemment.
En tout cas, au début, c'est une phase obligée.
C'est une phase un petit peu presque obligée. L'autre élément, bien évidemment, qu'il faut dire, et ça, c'est l'élément de réponse, c'est peut-être aller vers une activité plaisante. C'est-à-dire qu'il va falloir activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire faire quelque chose qui nous fait plaisir et qui en même temps nous fait bouger. Alors ça dépend des individus.
Quentin Rock.
Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que effectivement, il faut essayer de travailler sur les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et c'est comme ça que sur le long terme, on va réussir à intégrer quelque chose de régulier dans sa pratique.
Vous avez peut-être un conseil justement pour préparer son corps quand on se remet au sport, pour justement ne pas ressentir toutes ces douleurs qui peuvent qu'on va anticiper les fois suivantes et qui vont démotiver assez vite.
Oui, alors en fait, du coup, ça c'est hyper important ce que vous dites. Il faut pas démotiver les gens et donc il faut commencer à être ultra progressif. Donc en fait, il faut même valoriser les premières minutes de sport, même les 5 premières minutes, en disant ben, aujourd'hui, on va commencer voilà, en courant 5 petites minutes, et puis progressivement augmenter ce temps jusqu'à ce qu'on atteigne et du plaisir et du confort aussi dans le sport.
Concernant la course, par exemple, il ne faut pas sacraliser, par exemple, il faut absolument courir une demi-heure pour que ce soit efficace. Il faut peut-être se dire, ça va être 5 minutes aujourd'hui, je vais marcher 2-3 minutes, et puis demain, ça sera 10 minutes, 12 minutes. Ça, voilà, faut pas culpabiliser à l'idée de ne pas faire ces 30 minutes de course réglementaire.
Exactement. En fait, on est dans une société où il y a beaucoup de sensationnalisme. Donc, on va avoir beaucoup de marathons, beaucoup de courses comme ça. Et justement, les gens, il faut pas être moralisateur, faut pas les culpabiliser de courir justement 5 minutes. C'est très bien et c'est un super point de départ.
Professeur Martine Duclos.
Oui, je ferais bien une remarque. Je dirais à Maza Mazorette qu'elle n'a pas choisi la bonne activité sportive. 15 minutes de souffrance, moi je trouve que c'est un peu long, si elle le fait régulièrement. Et puis on n'est pas obligé de faire de la course à pied, il y a des gens qui sont très sportifs et qui détestent la course à pied. Donc elle peut se mettre à la marche, elle peut se mettre au vélo,
à la
si
danse.
On a mal un peu partout. À la danse, voilà, elle peut mettre la natation, le vélo quand on a mal partout. Et puis effectivement, comme disent mes collègues, il faut y aller doucement, on y va progressivement, et puis il faut trouver quelque chose effectivement qui nous fait plaisir. Moi faire une activité physique où à chaque fois je mets 15 minutes avant de me sentir bien, si je dois faire une demi-heure à 50% où je ne me sens pas bien, franchement, il faut trouver autre chose.
Docteur Kirzak.
J'ai eu peur de la question de Mme Mazorette qui est chronique sexo. J'ai cru que sa question c'était « Le sexe est-il du sport ?» C'est une vraie question.
Mais oui, c'est vrai.
Sur la notion de plaisir, de progressivité, c'est fondamental. Il faudrait quand même insister quand même sur la notion de discipline. Parce que si on n'est pas un minimum discipliné, si on ne s'astreint pas, alors je ne dis pas qu'il faut s'obliger à tout prix et être dans l'autoflagellation en permanence, mais si on ne s'astreint pas à une certaine discipline, on ressentira jamais les bienfaits finalement du sport. Enfin, ça, c'est un sportif du dimanche et quelques jours de la semaine qui parle.
Absolument, oui, la régularité. Hein. Ça, c'est les grands principes, on les a un petit peu cités. C'est-à-dire, première chose, la progressivité. Peut-être faut-il aussi ajouter l'adaptation. C'est-à-dire avoir une activité qui est adaptée à ses capacités du moment. Et ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à faire des petites évaluations. Hein, parce que souvent, quand on parle d'activité physique, on parle d'individualisation. Mais on ne peut pas parler d'individualisation sans évaluation. Donc, il faut essayer de s'évaluer un petit peu sur ses différentes capacités, faire une activité qui est évidemment adaptée, la progressivité, la régularité et le plaisir qui doivent être là. Là, c'est les grands principes d'une reprise progressive de l'activité physique.
Bonjour, docteur Adrien Chaboch.
Bonjour, Ali.
Au menu de votre chronique, quoi de neuf, docteur ?
Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une autre cause qui peut empêcher de faire du sport, qui est méconnue, qui est une peur. On va parler de kinésiophobie.
Grand bien vous fasse.
Alors, Marshall, est-ce que tu es prêt à prendre un engagement envers ton corps ? Génial ! Alors, on commence avec 100 pompes.
D'accord, combien veux-tu que j'en fasse ?
100 !
Personne n'est capable d'en faire 100.
Tu le sens, toi aussi ?
Non.
Ça sent comme s'il y avait une fiotte dans mon club.
Non.
Alors, allonge-toi et fais-moi 100 pompes !
Inutile de me crier dessus.
Sur France Inter.
Et vous ne voyez pas notre réalisatrice, c'est Claire Destacan, rire de mon accent anglais. Elle est absolument horrible en ce lundi matin. Comment se motiver à faire du sport ? C'est notre thème ce matin avec le site Doctissimo en compagnie de la professeure Martine Duclos, des docteurs Jean-Marc Sen et Gérald Kirzek avec le kiné Quentin Rockt.
C'est un classique du début d'année. Après les fêtes, l'inscription à la salle de sport fait partie des bonnes résolutions de janvier.
Tu voulais reprendre quelle formule du coup ?
La simple.
Simple.
J'étais déjà inscrit, mais après j'ai fait un petit moment de pause. Mais là, nouvelle année, nouvelle énergie, on commence l'année avec des bonnes choses. Quoi.
Dans cet autre établissement rennais, l'ambiance est tout aussi sportive. Première fois que François-Xavier pousse la porte d'une salle de fitness, bien décidé à se remettre au sport.
J'ai juste envie de faire ça pour moi, d'être en forme. Voilà, puis de retarder un peu l'affaiblissement général. Donc si ça va, si cette séance se passe bien, je resterai toute l'année, ouais.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Bretagne en janvier dernier. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être régulier dans la pratique sportive après s'être inscrit en salle de sport? Quentin Rockt, je rappelle que vous êtes kinésithérapeute spécialisé dans le sport.
Oui, alors en fait, déjà, on part avec des bonnes intentions. On se rend compte que ça va moins bien, qu'on est essoufflé un peu plus facilement. Et donc, on se dit, allez, on va se mettre au sport, on va essayer d'améliorer sa santé. Et en fait, effectivement, au quotidien, on se rend compte que on a tous des problèmes au niveau de l'organisation. On va avoir peut-être des enfants, un travail qui va durer longtemps, on va finir tard le soir, on va être fatigué. Et du coup, on va se retrouver avec une motivation qui va juste être de moins en moins bonne et donc, on va arrêter d'y aller, tout simplement.
Docteur Kirzek.
Et la salle de sport, si elle est loin, s'il faut prendre la voiture ou s'il faut prendre les transports, etc., à la contrainte et à la baisse de motivation, on va ajouter des contraintes supplémentaires logistiques. D'où une règle assez fondamentale qui est de prendre du plaisir et prendre quelque chose qui est facile, qui est pratique, qui est à côté de chez soi pour ne pas trop en rajouter, j'allais dire, dans la corbeille.
Docteur Jean-Marc Sam.
Oui, il y a une anecdote intéressante, c'est qu'il faut savoir que dans le modèle économique des salles de sport, ils tiennent en compte le fait que 80% des gens
arrêter. C'est vrai.
Donc, effectivement, la diminution des contraintes est un des éléments qui permet quand même d'aider la poursuite.
Et je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est qu'on oublie aussi certains sports. Et c'est vrai que quand on parle sport, il faut, donc, on disait tout à l'heure, du plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des sports qui sont tournés autour de l'art. Je pense par exemple à la danse, des choses comme ça. Et en fait, il y a des gens qui ont besoin d'art pour s'exprimer, qui ont besoin de ça. Et donc, d'associer les deux, souvent, ça peut être une bonne option pour garder quelque chose de régulier quand ça nous plaît vraiment.
Professeur Martine Duclos, une question de Diane pour vous. À 50 ans, j'ai envie de reprendre le sport, mais j'ai peur de me blesser. Comment reprendre en douceur et quel sport pratiquer à 50 ans?
Alors, comment reprendre en douceur? C'est très simple, c'est commencer progressivement. C'est écouter son corps et pas sa tête, parce que sa tête, elle vous dira « je suis fatiguée, j'ai peur de me faire mal ». Donc non, c'est son corps. C'est-à-dire que si le corps dit qu'effectivement, là, j'en ai fait un peu trop, ou je sens une douleur, bon, j'y vais plus doucement. Et puis les deux choses importantes, c'est s'hydrater avant, pendant, après. Alors hydrater, de l'eau, hein, pas besoin de sucre ni quoi que ce soit. Favoriser la récupération, bien manger. Et puis voilà, et puis trouver ce qui nous fait plaisir. Pour en revenir à ce qui était dit tout à l'heure aussi, une des raisons pour lesquelles on arrête, c'est que c'est la monotonie. Donc voilà, c'est-à-dire au début c'est très bien parce que c'est nouveau, il y a plein de trucs, c'est voilà. Et puis à un moment quand c'est toujours pareil, donc ça, et puis éventuellement commencer avec quelqu'un d'autre. Parce que les jours où on n'a pas envie, si on a donné rendez-vous à un ami, à quelqu'un, eh bien, lui, il nous dira, lui, à ce moment-là, ça tombe bien, il a envie. Et vice-versa.
Professeur Duclos, bien manger, c'est pas une tartiflette et une choucroute.
Devinez. Non, c'est en tout cas essayer de manger équilibré. Ça, c'est manger équilibré. Et puis le fait de faire attention à son corps, ça donne envie aussi de faire un petit peu attention à ce qu'on va manger. Et de même, on sait très bien que si on mange mal, l'activité physique, ça va vraiment être dur.
Docteur Kirzek.
Et on passe d'un cercle vicieux où finalement on est sédentaire, on mange mal, on n'est pas bien. Et on n'est pas bien dans sa tête aussi, parce qu'on sait les liens entre le corps et la tête. Et on va passer après quelques séances avec cette régularité à une phase où on va rentrer dans un cercle vertueux. On va peut-être perdre un petit peu de poids, on sera moins essoufflé, on aura moins envie de manger ou on mangera plus sainement, on ira mieux dans sa tête. Et donc on va vraiment inverser tout ce schéma et c'est là où on va commencer à prendre du plaisir. Juste pour répondre aussi à partir de 50 ans, quel choix de sport aussi. C'est pas forcément le même sport qu'on a fait à 20 ou 30 ans. C'est pas forcément, si on est sédentaire, se lancer d'emblée dans du cardio, du tennis ou du squash, va plutôt falloir aller vers des activités d'endurance plus progressives. Et ça se discute peut-être avec son médecin.
Docteur Jean-Marc Sen.
Oui, ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'il faut peut-être profiter de ces périodes de changement pour régler d'autres problèmes. On parlait de la cigarette, la modification de l'alimentation, l'excès peut-être d'alcool, peut-être d'autres addictions, eh bien, c'est souvent une période propice pour faire ces multiples changements. En même temps, c'est moins difficile que de les faire de manière très, très séparée. Donc ça, c'est une chose, et l'action que ça a sur effectivement l'esprit, l'état d'esprit, l'humeur, l'anxiété, tout ça a un effet absolument démontré, c'est même d'ailleurs dans les recommandations, dépression moyenne à légère, eh bien la première chose, c'est de commencer à faire une activité physique modérée.
Martine Duclos, je m'adresse à la présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Lionel nous écrit ceci: je suis chauffeur routier et je reste pratiquement ma journée complète assis. Comment je peux faire pour limiter les dégâts ?
Alors, ce qu'il peut faire, bon, déjà, toutes ces arrêts toutes les deux heures, et puis bah, profiter de l'arrêt de toutes les deux heures pendant 15 minutes, en profiter pour bouger. Je sais qu'il y a d'autres chauffeurs routiers qui choisissent aussi pour les arrêts des endroits où ils savent qu'ils peuvent faire soit un petit peu de footing, soit des mouvements, enfin différents mouvements. C'est-à-dire enfin au moins profiter, première chose, des pauses toutes les deux heures pour se ménager un quart d'heure d'activité physique. Ça peut être 15 minutes d'endurance, de marche rapide ou de renforcement musculaire. Et puis il alterne. Déjà, toutes les deux heures, ça fait pas mal de choses. Et puis quand il est dans son camion, il peut très bien effectivement faire travailler ses jambes. Il peut faire travailler les adducteurs, les abducteurs. Lever les jambes, enfin en tout cas lever les cuisses, etc. Donc il peut faire des petits mouvements pour faire bouger ses cuisses. Donc en fait, il y a des petites choses pour qu'il fasse travailler ses jambes. Alors bien sûr, hein, il ne va pas faire des sauts sur sa chaise, sur son fauteuil.
Vaut mieux.
Je ne le conseille pas. Voilà. Mais il peut essayer de faire bouger, soulever une cuisse, soulever l'autre, pour essayer de faire bouger ses jambes.
Alors l'idée ce matin, c'est de ne pas culpabiliser celles et ceux qui ne pratiquent pas d'activité physique et sportive, mais quels sont tout de même les risques avérés sur notre santé si son mode de vie est essentiellement sédentaire, docteur Jean-Marc Sen?
On se déconditionne. On se déconditionne et on déconditionne l'ensemble de son métabolisme. Donc on a un ensemble de risques qui vont apparaître, qui sont connus. Le risque, bien évidemment, par exemple, de diabète, de troubles lipidiques, l'impact cardiovasculaire, l'impact sur, on parlait tout à l'heure de l'humeur et du stress, et puis des choses qui sont peut-être un peu moins connues, qui sont l'augmentation du risque également de cancer. Un certain nombre de cancers sont augmentés par par la sédentarité et l'insuffisance d'activité physique. Alors donc, je pourrais bien sûr allonger la liste largement, hein, on parle de l'ostéoporose, enfin voilà, on peut vraiment allonger les choses. Donc les risques, en fait, sont très importants. Ou j'aurais plus qu'envie de dire...
Et c'est documenté scientifiquement. Ah, c'est
absolument démontré, là, avec des études de niveau assez élevé. J'aurais envie de dire que plus que voir, bien évidemment, parce que quelquefois quand on prend risque, ça culpabilise un peu, mais en fait, inversons les choses. Disons comment on diminue l'ensemble de ces risques lorsque on est moins sédentaire, lorsqu'on fait de l'activité physique. On diminue considérablement les risques.
Oui, mais professeur Duclos, quels sont les liens entre la sédentarité et les risques sanitaires? Quels sont les mécanismes? Pourquoi est-ce que la sédentarité favorise le diabète de type 2, les pathologies cardiovasculaires, l'ostéoporose? C'est quoi le principe général du lien entre la sédentarité et les risques sanitaires?
Alors, les mécanismes sont simples. Pour les risques cardiovasculaires, imaginez que quand vous êtes assis, eh bien, vos artères des membres inférieurs, le débit dans les artères, c'est vraiment dans les artères, le débit artériel diminue. Or, la paroi des artères est une paroi vivante, et du fait que le débit diminue, les cellules des parois, la paroi artérielle, ce qu'on appelle l'endothélium, sont moins stimulées, parce que le sang passe moins vite, et produisent moins d'un gaz, qui est le monoxyde d'azote, qui dilate les artères. Et à l'inverse, il y a une production d'endothéline qui, elle, rétrécit le volume des artères. Et cette endothéline, en fait, elle est inflammatoire. Elle produit une micro-inflammation. Alors, si on fait ça pendant une heure, c'est pas grave. Mais si on le fait pendant 2-3 heures, il a bien été montré qu'il y a une micro-inflammation qui se crée, une diminution de la réactivité de cet endothélium. Et ça, pendant des jours et des jours, eh bien, ça crée une inflammation. Deuxièmement, les muscles, eh bien, ne travaillent pas, donc ne consomment pas de glucose. Donc, la glycémie, en particulier en réponse au repas, augmente. Il y a une résistance à l'action de l'insuline. Eh bien, quand vous faites ça pendant 12 heures, tous les jours, pendant toutes les semaines, pendant des mois et des années, eh bien, ça favorise le diabète, ça favorise la prise de poids. Il y a une diminution de la force musculaire. Et puis, quand tout ça s'accumule pendant des années, eh bien, c'est l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire. Il a bien été montré simplement que le fait de rester assis 3 heures, vous avez la pression artérielle qui augmente. Donc voilà l'ensemble de ces éléments, la glycémie après le repas qui augmente, la pression artérielle qui augmente, la résistance artérielle qui augmente, bah tout ça c'est des facteurs de risque cardiovasculaire et in fine bah vous avez des risques augmentés au niveau cardiovasculaire. Mais même, ce qui peut intéresser aussi tout le monde, simplement le fait de rester assis pendant 3 heures, vous avez au niveau cérébral une diminution de la perfusion en oxygène cérébral et donc moins d'attention, difficulté de vous concentrer, moins de mémoire de travail, enfin bref, voilà, levez-vous tous vite, très vite.
Je viens de me lever pour vous dire la vérité, Martine Duclos, docteur Kirzek.
Et le mot-clé, c'est l'inflammation, des micro-inflammations.
L'inflammation
Inflammation de Bagrade. Exactement, inflammation de Bagrade. On sait que que c'est un stress pour l'organisme, non pas un stress psychique, mais vraiment un stress physique, un stress cellulaire. Et voilà pourquoi on pourrait rajouter aussi que la sédentarité est un facteur de risque d'apparition de cancer. Et dans les traitements de cancer ou dans la prévention des cancers, et ça marche avant l'apparition d'un cancer, une fois que le cancer est traité pour éviter les récidives, donc en prévention primaire, secondaire et tertiaire, l'activité physique est fondamentale. Non pas pour diminuer de quelques pourcents, mais vous avez des études quand même qui montrent qu'entre des femmes par exemple sédentaires par rapport à des femmes qui ont une activité sportive, il y a une diminution du risque de cancer de l'ordre de 30%. Donc ce sont des chiffres considérables, tout ça médié par ces phénomènes inflammatoires.
Il faudrait, alors là, tout ce qui est dit est tout à fait juste, et il faudrait rajouter à ça les maladies neurodégénératives. Les maladies de Parkinson et autres maladies neurodégénératives, Alzheimer, qui sont également diminuées de manière très significative, de l'ordre de 30% également aussi, lorsque les personnes sont actives.
Donc, tiens, quelle est la bonne dose de sport par semaine? C'est quoi? C'est une heure, deux heures?
Alors, il y a des recommandations de niveau d'activité physique qui sont faites par l'OMS.
Il faudrait faire une demi-heure par jour d'activité physique.
30 minutes, 5 fois par semaine, pour l'adulte en tout cas. C'est ce qui est à peu près recommandé, plus chez les jeunes et enfants. Donc ça, c'est les recommandations qui sont données. Et puis ensuite, évidemment, on peut faire un petit peu plus. L'idée, c'est plutôt la répartition et de le faire très régulièrement. C'est d'éviter une quantité comme ça qui serait uniquement le week-end, par exemple.
Et le mot adapté est important. On entend beaucoup parler d'activité physique adaptée. C'est que l'activité sportive adaptée aussi, ça paraît quelque chose de fondamental parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire certaines pratiques et qui peuvent en faire d'autres. Donc c'est ça qu'il faut discuter avec son médecin, son kiné, avec des préparateurs physiques, un coach dans une salle. Bref, l'idée c'est d'être accompagné et d'avoir une activité adaptée.
Bonjour Axel, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez des Landes.
Oui, je suis au milieu des forêts de pins en randonnée vélo et vous m'entendez bien ?
On vous entend très bien, Axel.
Ok. Donc, j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit puisque je l'ai mis en pratique il y a 12 ans. Mm-hmm. J'ai rejoint une amie qui marchait sur le chemin de Saint-Jacques. Mm-hmm. Et donc j'ai essayé, j'avais envie de cette aventure, et au bout de premier jour, malaise vagal après 28 km, deuxième jour, mal au genou, je me taille un bâton, troisième jour, épuisement total, je devais rentrer, et là je me suis dit, le sujet m'intéresse, mais j'ai pas le niveau. Mm-hmm. Donc là ça m'a motivée à me remettre au sport, aller à la piscine une fois par semaine, à faire un cours de gym une fois par semaine, marcher, faire un peu de vélo. Et j'ai repris donc ce chemin de Saint-Jacques pour y être arrivée, pour y retourner avec une autre amie. Je me suis mise depuis à la randonnée à vélo. Et donc je dirais, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Faire deux séances d'abord avec des amis par semaine. Je faisais ça à l'heure du déjeuner quand je travaillais, parce qu'on était motivés. Et maintenant, je continue. Et grâce à ce déclic qui a été la motivation d'accompagner une amie sur le chemin de Saint-Jacques, je suis devenue une sportive... quand même assez même régulière et de grande distance maintenant.
Et je précise que vous avez commencé à faire du sport à 50 ans à peu près.
Alors, j'en avais déjà fait, mais je m'inscris dans une salle de sport, j'y vais trois fois, j'arrête. Voilà. J'ai des bonnes résolutions, j'arrête. J'ai trouvé avec la motivation de la marche une semaine par an, j'ai trouvé le déclic qui a fait que je me suis mise au sport de façon régulière parce que j'avais besoin d'accompagner en étant au niveau. Donc c'est le déclic, la motivation.
Quentin Rocht, je rappelle que vous êtes kiné.
Oui, alors je trouve que c'est très intéressant comme témoignage parce que souvent, effectivement, on va avoir ce que vous décrivez, donc un déclic. Ça peut être, vous êtes rendu compte que ça n'allait pas quand vous êtes lancé dans un gros objectif, mais ça peut être tout simplement une rupture, ça peut être après une maladie importante. On a souvent un déclic et ça nous permet aussi de faire entrer ça comme activité régulière. Et donc, c'est super d'avoir un objectif, ça permet aussi d'entretenir sa motivation. Et donc, c'est des choses qui sont très importantes et félicitations à vous.
Et précisons, professeur Martin Duclos, que la marche est un très bon moyen de se remettre dans une activité physique et sportive.
Ah oui, c'est un excellent moyen. En plus, la marche, l'intérêt, c'est qu'on peut moduler son intensité. Mmh. Ça peut être léger, modéré, intense. Ça peut être en montant, en descendant. On fait tout ce qu'on veut. Et en plus, comme le disait cette dame, on peut prendre des bâtons. Alors, l'intérêt des bâtons est double. La première, c'est qu'on fait travailler les bras. Donc, on fait plus travailler le cardiovasculaire que si on faisait pas les bras. Et en plus, on diminue la charge sur les membres inférieurs de 30%. Donc, quand on a mal aux genoux ou aux hanches, eh bien, ça diminue la charge au niveau des hanches et des genoux.
Merci beaucoup, Axel, et profitez bien de cette belle région des Landes. Alors, docteur Kirzek, quelles sont tout de même les précautions à prendre quand on se mais au sport ou que l'on s'y remet après de longues années d'arrêt.
Consulter son médecin, je crois que c'est assez fondamental de faire un peu le point, c'est un check-up, on décide de quelque chose, c'est très bien pour sa santé. J'allais dire, il n'y a pas de contre-indication, votre médecin ne doit pas vous donner des contre-indications. En revanche, il doit vous donner des indications pour bien pratiquer. Le choix du sport, et je le disais tout à l'heure, éviter les sports trop violents sur le plan cardio, même si vous étiez très bon il y a 20 ou 30 ans, bah c'était il y a 20 ou 30 ans, et votre corps a changé, vous avez plus de poids, plus de graisse, peut-être des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça va être l'occasion, quand je parle de check-up, de faire peut-être une analyse de sang, si vous n'avez pas fait de bilan depuis pas mal de temps, un électrocardiogramme, il va vous ausculter, il va prendre la tension artérielle, il va regarder un peu dans quel état vous êtes. C'est un peu comme s'il y a une voiture qui est au garage, avant de la faire redémarrer, on vérifie qu'il y ait de l'huile, on vérifie qu'il y a un certain nombre, qu'il y ait les pneus qui soient bien chaussés par exemple. Tout ça, ça va faire partie du bilan que votre médecin généraliste va pouvoir faire avec vous. Et en fonction du type d'activité sportive, plus ou moins intense, en fonction de ce qu'il aura trouvé en termes de facteurs de risque, eh bien il va peut-être vous orienter vers un spécialiste, vers un médecin du sport, vers un cardiologue, peut-être faire une épreuve d'effort, à vous faire pédaler sur une bicyclette ou faire un coroscanner pour aller voir l'état de vos coronaires, où il y a certains examens maintenant qui permettent de simuler le sport et de voir comment votre organisme va réagir et va être capable de s'adapter.
Docteur Jean-Marc Sen.
Oui, effectivement, le bilan médical, ça c'est quelque chose qui est nécessaire, qui doit être orienté en fonction des antécédents, des facteurs de risque de la personne. On pourrait dire qu'une deuxième chose, ça serait, surtout si on a repris, c'est de s'évaluer. On en parlait un petit peu tout à l'heure, puisqu'on veut quelque chose qui soit adapté, l'évaluation est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a des petits tests qu'on peut faire, alors accompagnés d'un kinésithérapeute, pourquoi pas, ou des tests de terrain qui, je trouve, sont assez intéressants. Et puis ensuite, il va falloir essayer de programmer, hein. Programmer quelque chose qui soit très progressif, très régulier. On parlait de ces règles-là, de progressivité, de régularité. Et ça, normalement, c'est ce qui, en tout cas, ce sont des facteurs de réussite, en plus, évidemment, du choix d'une activité a priori qui puisse faire plaisir. Sur ça, d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de faire une introspection sur les éléments que l'on préfère. Est-ce qu'on aime bien être à l'intérieur? Est-ce qu'on aime bien faire du sport seul ou à plusieurs, à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce qu'on aime bien le jeu ou plutôt la notion chronométrique? Et ces différents paramètres-là vont aussi nous orienter vers le type de sport qu'on pourra, ou d'activité physique qu'on pourra choisir.
Allez, il est 10h40, il est l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf, docteur, d'Adrien Chaboch.
Voilà, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Et si le véritable obstacle au sport, c'était la peur de bouger, docteur Adrien Chaboch?
Eh oui, et alors Ali, on va en parler. Mais avant tout, allez, dites-moi, ce week-end, combien avez-vous fait de pas?
Ah, j'en ai fait beaucoup, pour dire la vérité. J'en ai fait ce week-end-là. À peu près, 35 000.
Voilà, exactement. Mais vous ne faites pas de sport violent. Exactement.
Bon. Alors, bon, voilà, j'ai fait mes plus de 15 000 pas par jour, mais pas de sport violent.
Oui. Comme le prix Nobel de littérature de 1925, vous savez, George Shaw, oui, qui disait « Le seul sport que je n'ai jamais pratiqué, c'est la marche à pied, quand je suivais les enterrements de mes amis sportifs. » Alors moi, j'avoue être vraiment un croc, sans mes 4 heures par semaine, malgré ma sédentarité dans la semaine, ça ne va pas dans ma tête. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Delphine, je vais vous raconter son histoire, elle a 43 ans, c'est une femme hyperactive, impliquée, l'exigence de la réussite dans le travail, jusqu'au jour où tout a déraillé. Dans un escalier, au travail, le faux pas de l'effort de trop, et c'est la chute, la dégringolade, où s'effondre le modèle du sacrifice professionnel au prix de sa santé. Sa blessure au dos n'était pas grave, comme quand on voit des lésions de la moelle. Pourtant, elle était comme paralysée. Oui, elle tenait debout, mais restait allongée toute la journée. La douleur ne s'expliquait pas sur les radios ou les IRM qu'on lui faisait passer. Elle me disait « Dès que je veux bouger, j'ai peur. J'ai l'impression que mon corps ne va pas me porter. » Alors les injonctions sont venues. Finalement, comme celle du travail, venir encore la blesser. « Vous n'avez qu'à faire de la kiné. Et puis, il faut vous bouger un petit peu. » Mais elle ne manque pas de volonté, Delphine. Delphine, elle souffre de kinésiophobie. Une angoisse irrationnel du mouvement qui peut aller jusqu'à la panique de se faire mal. Ça touche plus de 10% de la population, Ali. Davantage des femmes autour de 40 ans. Et les études ont montré la réalité des atteintes neurologiques. C'est un petit peu technique, mais sachez-le, l'amygdale, celle dans la tête, pas dans la gorge, l'amygdale amplifie la peur du mouvement dans la kinésiophobie. Les cortex insulaires et singulaires renforcent et focalisent sur l'anticipation de la douleur. Pour vous dire que oui, c'est dans la tête, mais la tête, c'est le corps aussi.
Alors, est-ce que vous avez pu aider votre patiente ?
Oui, avec du temps et de l'écoute. On n'aide pas quelqu'un à se remettre en mouvement avec des injonctions, mais en l'invitant déjà à se réconcilier. Avec elle, on a essayé autrement. Pas du running. Donc je vous rappelle au passage que Jim Fix, auteur d'un best-seller de la course à pied, est quand même mort à 53 ans d'un infarctus en faisant son jogging.
Non. N'en dégoûtez pas les autres, mon cher docteur Chaboche.
Je le pratique moi-même. Non, dans une approche de médecine intégrative, avec un kiné en collaboration, nous lui avons proposé par exemple du Moon's Floor, une excellente technique développée pour les danseurs blessés, mais aussi du Qigong, du Tai Chi, des mouvements doux, fluides et plus harmonieux que de pousser de la fonte. Des pratiques surtout où le corps et les émotions se parlent enfin. En parlant du mouvement, c'est mon moment actualité, on n'y coupera pas. Parlons aussi de ceux qu'on force à avancer sans leur demander s'ils vont bien. Aujourd'hui, Ali, je suis en grève, comme mes confrères jeunes médecins. Non pas pour refuser de faire face à la réalité du manque de médecins que nous subissons tous, mais pour dire que quand on avance déjà depuis 9 ans à marche forcée, 59 heures de travail par semaine en moyenne, ceux qui ont 3 fois plus de risques de suicide que la population, parfois le vrai courage, c'est de s'arrêter de dire non un système créé depuis 40 ans par les mêmes politiques qui veulent aujourd'hui donner des leçons. Delphine, elle aussi, elle a dû dire non. Aujourd'hui, elle remonte l'escalier qu'elle a dévalé. Personne ne l'acclame, car chaque pas est une petite victoire intime. Parce que le vrai sport, parfois, c'est pas de se dépasser. Remettre son corps en mouvement, c'est d'abord réparer ce qu'on ne voit pas et se retrouver. Le courage, c'est pas de courir un marathon, c'est d'être accompagné pour gravir un jour l'escalier de nos peurs.
Merci docteur Adrien Chaboche. Toutes vos chroniques sont à podcaster sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse.
Alex, qu'est-ce que tu fous là, avance, Alex. Ah, j'en
peux plus. Je suis morte, je
veux dire. Allez, tu peux plus.
Je suis
crevée. Tu peux plus. Mais pense à la taille de ton cul, tu vas avancer, tu vas voir.
Sur France Inter.
Comment se motiver à faire du sport, c'est notre thème ce matin avec le site Doctissimo. Alors, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs nous disent que la question financière est un frein à la pratique sportive. Selon une étude d'Ipsos pour la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, en moyenne, les Français dépensent 284 euros par an pour leur pratique sportive. Et un sondage OpinionWay pour Le Parisien réalisé en janvier 2024 indiquait que pour 20% des personnes interrogées, une aide financière pour s'équiper, acquérir une licence ou un abonnement serait un élément décisif pour faire davantage d'activités physiques au quotidien. Et 19% des sondés pratiqueraient davantage s'ils avaient accès à des équipements sportifs en libre accès ou s'ils pouvaient pratiquer gratuitement en groupe. Sur ces arguments financiers, docteur Jean-Marc Sen, je rappelle que vous avez publié chez In Press Le sport, je me lance.
Oui, absolument, pour essayer de donner un outil accessible évidemment à tous, puis évidemment participer à tous les dispositifs pour pouvoir se remettre à l'activité physique. C'est vrai qu'il manque probablement d'une politique très active sur l'incitation à l'activité physique. Autrement dit, quelque chose qui soit beaucoup plus accessible. Je rêverais de voir des éducateurs sportifs un petit peu dans tous les squares, les centres, et pourquoi pas accessibles, pris en charge par la collectivité et accessibles pour tout à chacun qui voudrait bouger sereinement.
Et pour ce même sondage du Parisien et OpinionWay, pour 17% des sondés, un coach sportif et un programme individualisé motiverait. Nous avons un coach sportif en ligne. Bonjour Bilal Bouraza, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous êtes coach sportif, vous avez coaché notamment des sportifs de haut niveau et vous vous occupez actuellement de l'entraînement du nageur et animateur de télévision Théo Curin. Alors en quoi consiste exactement votre métier de coach sportif ? Cela déborde largement le cadre de l'entraînement à proprement parler.
Oui, tout à fait. Alors j'aime définir le coaching comme étant le fait d'emmener une personne d'un point A à un point B. Et qu'importe son niveau, parce qu'effectivement, et vous en avez parlé tout au long de l'émission, mais qu'il n'y a pas de prérequis nécessaires. Et effectivement, j'accompagne des sportifs de haut niveau, mais j'accompagne aussi monsieur et madame tout le monde. Et le rôle, effectivement, du coach sportif, et on vient de le dire à l'instant, c'est avant tout un éducateur sportif. Donc c'est de l'éducation par le sport. Donc il faut réussir à donner les clés, à parler de méthodologie, à amener cette notion également de progressivité. mais le tout avec une vision prophylactique permanente et donc la prévention avant tout.
Bilal Bourhassa, la dimension psychologique est également fondamentale quand vous accompagnez des sportifs amateurs ou professionnels.
Effectivement, l'aspect mental ou psychologique en tout cas déborde toujours de manière assez tacite durant une collaboration et même durant une séance de sport à proprement parler sur le terrain. Et effectivement, certains coachs, et j'en fais partie, se sont formés ou continuent à se former sur un process de formation continue sur ces aspects mentaux. On parle de préparation mentale dans le sport, mais effectivement ça fait le lien avec parfois même des thérapies brèves, etc. Il y a certains coachs sportifs qui se forment sur de l'hypnose, sur de la sophrologie, etc. Et effectivement, on se rend compte que c'est des clés qui sont aujourd'hui, en 2025, hyper intéressantes parce que, effectivement, le corps et le cerveau fonctionnent ensemble. Et effectivement, il y a un lien qui se fait de manière totalement logique.
L'avantage du coaching sportif, c'est qu'il s'agit d'un programme hyper personnalisé et adapté.
Complètement, et c'est d'ailleurs ce pourquoi les personnes franchissent le pas, parce qu'effectivement il y a parfois un frein au fait de passer la porte d'une salle de sport pour certaines personnes qui ont peur même du regard de l'autre, etc., ou qui anticipent un petit peu de manière péjorative ce regard. Effectivement, je pense qu'il y a un côté non jugeant d'aller voir un professionnel du sport pour une prise en charge. Et au-delà de l'aspect méthodologique que le coach va pouvoir apporter, il y a aussi une notion d'accompagnement, de rendez-vous qui permet de garder aussi cette rigueur et cette motivation à long terme.
Bilal Bourhassa, une petite question qui fâche. A priori, ça coûte cher de prendre un coach sportif? C'est réservé aux plus aisés?
Alors, ça a été longtemps réservé à une élite, ou en tout cas on le voyait comme tel. La vérité aujourd'hui, je dirais qu'elle est d'ordre... La difficulté principale pour y répondre, c'est que les coachs sportifs, pour la plupart, qui travaillent de cette manière-là, sont des professionnels indépendants, profession libérale. Et donc on sait qu'en France, avec les cotisations sociales, etc., les coachs doivent aussi vivre et pouvoir vivre décemment, continuer à se former aussi par le biais de leur activité pour continuer à apporter une expertise au quotidien aux personnes qu'ils accompagnent. Donc effectivement, les tarifs peuvent parfois être... difficile en fonction, il y a des échelles un petit peu financières pour un
combien
petit peu
ça coûte, chaque ville.
Entre 50 et 80 euros.
Exactement. Et voilà, et ça dépend complètement, ça dépend un petit peu des villes, ça dépend la des séance. Régions dans lesquelles on est. Mais effectivement, la séance est aux alentours de, allez, si on prend une grande fourchette, on sera aux alentours de 40 et 100 euros en France à l'heure actuelle.
En tout cas, ça peut être un bon starter pour certains de prendre 4 ou 5 séances. Et puis ensuite, un conseil, juste pour terminer, Bilal Bourhassa, pour celles et ceux qui ont du mal à se motiver à faire du sport, un petit conseil peut-être?
Alors écoutez, je vais pas inventer grand chose là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Je dirais qu'effectivement il faut aller en priorité vers une activité qui nous plaît, parce qu'effectivement ça va être la clé. Il faut également respecter cette notion de progressivité, parce que là aussi c'est un point essentiel pour pouvoir durer. Et pour pouvoir, pourquoi pas, je parle souvent de performance individuelle, mais mon mantra est la. Mon mantra, finalement, c'est très très simple, mais c'est à chacun sa performance, pour la seule et bonne raison que mettre une notion de performance, même pour des personnes qui ont juste à cœur d'améliorer leur quotidien, c'est déjà une performance. Et donc effectivement, cette notion de progressivité permet de pouvoir apporter finalement sur le long terme des bénéfices vraiment très intéressants.
Quentin Rocht.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est que quand on commence une activité physique, c'est bien de la commencer quand on est jeune. Et donc il faut avoir ce côté justement où la France a son rôle à jouer, c'est d'inspirer les jeunes à faire du sport. Et pour ça, il faut des grands champions qui marquent notre monde.
Merci beaucoup Bilal Bourhassa. Alors Quentin Rocht, vous publiez Courir, le guide pour tous ceux qui n'ont jamais couru de leur vie. Allez, voilà, ça y est, certains de nos auditeurs ont décidé de se mettre à la course à pied à l'issue de cette émission. Que doit-on faire en tout premier lieu? Bien s'équiper d'abord, évidemment.
En fait, c'est ça. Si on veut le garder sur le long terme, il faut essayer de supprimer un maximum de freins. Donc, s'équiper correctement, ça va justement nous aider à courir de façon plus confortable. Ça va éviter, par exemple, les ampoules. Ça va rendre les runs un peu plus confortables.
Faut-il investir des centaines d'euros pour une bonne paire de running? Parce que dans certains magasins, c'est assez prohibitif. On a l'impression qu'il faut casser son PEL pour acheter une paire de running, de basket.
Une bonne paire de running, effectivement, on va être aux alentours des 100 euros. Après, c'est vrai qu'il y a souvent souvent des soldes ou voilà, des Black Friday, tout ça, qui peuvent nous aider à s'équiper de façon plus économe. Mais effectivement, il y a un petit apport à mettre pour être confortable et pour que ça reste quelque chose d'agréable.
C'est-à-dire choisir la bonne paire qui ne provoquera pas de blessures. Alors, pour rester motivé, il est essentiel de définir ses objectifs. Et pour vous, ne pas le faire, ce serait comme partir en pleine mer sans avoir de cap. Avec peut-être deux objectifs. Le premier, c'est la durée. Le deuxième objectif, l'allure. Expliquez-nous.
Oui, alors en fait, on peut déjà avoir comme premier objectif, vous l'avez dit, donc la durée, c'est un objectif qui est beaucoup plus simple à mettre en place, parce qu'on a juste progressivement à allonger le temps des séances. Et une fois qu'on a atteint un certain niveau, on va dire 30-45 minutes sans s'arrêter, on va pouvoir justement améliorer ses performances, donc courir plus vite. Et c'est un peu plus challengeant, donc pour ceux qui aiment la compétition, ça peut aussi donner des objectifs sur le long terme. Et donc, à partir de là, ça devient intéressant voilà, d'intégrer d'autres séances, des fractionnés.
Fractionnés, expliquez pour ceux qui ne connaissent
pas. Alors fractionnés, du coup, c'est alterner des temps où on va courir à haute intensité, donc à plus haute vitesse, et des temps où on va ou marcher ou trottiner à petite intensité.
Tiens, pour terminer, quels sont les freins les plus fréquents quand on commence à courir? Vous énumérez dans votre livre 10 fausses croyances et idées reçues sur la course à pied. Quelles sont celles qui vous agacent le plus et alors, qui moi, peuvent empêcher coup... certains d'entre nous de courir?
Oui, déjà, on va souvent associer la course à pied à des problèmes sur le long terme. Donc, on dit on va avoir beaucoup mal, on va avoir des douleurs aux genoux, on va avoir un dos qui va être moins solide avec le temps. Et au final, on se rend compte qu'avec les études sur des dizaines de milliers de coureurs, quand on fait le comparatif entre des personnes de 50 ans qui ont couru régulièrement et des personnes sédentaires à 50 ans, on va avoir un dos en meilleur état, avec des disques intervertébraux, de plus grande épaisseur et des genoux, pareil, dans une meilleure santé.
Un dernier conseil peut-être, docteur Jean-Marc Seine.
Oui, un élément qui me vient à l'esprit, les plus jeunes. Il existe une épidémie absolument dramatique chez les plus jeunes sur l'insuffisance d'activité physique. Il faut vraiment mettre en place des politiques qui permettent de développer cette activité chez les plus jeunes. C'est une bombe à retardement.
Et vous l'avez documenté, professeur Duclos, hein, cette bombe à retardement, en quelques mots. Ah, on ne vous a plus, professeur Martine Duclos. Oui, vous êtes là ? Non, on vous a plu.
Vous m'entendez ?
Ah oui, on vous entend rapidement. Oui, oui. C'est documenté, oui, oui. Ce que vient de dire Jean-Marc Seine. Hein.
Ah oui, tout à fait. Puis le problème, c'est que maintenant, les enfants ont le e-sport. Donc, nous, quand on sortait de l'école, on allait jouer dehors. Mais eux, quand ils sortent de l'école, ils vont jouer sur leurs écrans. Donc, c'est du temps passé assis et pas d'activité physique. Donc, ils ont un double profil qui explique qu'effectivement, ils partent dans la vie avec des capacités physiques qui ont diminué de 30%. Donc, c'est dramatique.
Tout dernier conseil, on est très fatigué, on n'a pas envie de faire du sport. Votre conseil, docteur Kirzek, on se dit, oh là là, je suis fatigué.
Le meilleur anti-fatigue, c'est le sport.
Voilà, bonne conclusion. Ah oui. Je voulais vous l'entendre dire. Merci beaucoup professeur Martine Duclos. J'espère la prochaine fois que vous pourrez venir en studio. Merci docteur Jean-Marc Seine. On peut lire avec profit Le sport, je me lance chez InPress. Merci Quentin Rocht. Courir, le guide pour tous ceux qui n'ont jamais couru de leur vie, c'est chez Larousse. Merci docteur Gérald Kirzek. On peut retrouver un dossier sur ce thème sur le site de Doctissimo. Et merci docteur Adrien Chabot.
Rendez-vous face. Un podcast France Inter.